si les jeunes hommes sont obligés de partir à l'armée, ils risquent de rencontrer des femmes soldats, de ne pas pouvoir toujours manger strictement cachère, ils risquent de ne pas pouvoir toujours prier aux heures qui leur conviennent, et puis ils risquent d'être de temps à autre sollicités pendant le sacro-saint Shabbat. Et puis la deuxième question est pratiquement identitaire. Les ultra-orthodoxes ne reconnaissent pas le sionisme comme l'idéal fondateur légitime de l'État d'Israël. Pour eux, non seulement l'État d'Israël contemporain dans ses lois, dans ses mœurs surtout, ne respecte pas l'État tel qu'il devrait voir le jour après le retour du Messie, d'une part, et d'autre part, précisément, le Messie n'est pas encore revenu. Donc Dieu n'ayant pas donné de signes tangibles, théologiques, clairs aux Juifs pour recouvrer leur souveraineté sur Eretz Israël, eh bien les sionistes, quelque part, se sont pris pour Dieu. Et il n'y a pas pire péché que cette espèce de propension à des hommes à accélérer le dessein divin. Donc l'armée en Israël, c'est véritablement le gage le plus clair de l'engagement quant à la légitimité du sionisme et de l'État d'Israël dans ses lois. Donc s'ils sont obligés de faire l'armée, ils se trahiront, et c'est ça qu'ils détestent dans cette loi.
Alors à l'inverse, pourquoi le Premier ministre Benjamin Netanyahou a-t-il tenu tant à ce que cette loi soit votée ?
Netanyahou a été le rempart à cette loi pendant de très nombreuses années, et aujourd'hui il n'a pas le choix que d'accepter politiquement. Il a toujours été allié aux orthodoxes. Or, il se trouve que le dernier scrutin en date a donné une forte majorité laïque, et c'est la première fois depuis 1983. Et c'est la raison pour laquelle le rapport de force politique, cette fois-ci, n'est pas en faveur de Netanyahou. Et Netanyahou, si vous voulez, il ne va pas sacrifier le poste de Premier ministre et tout son gouvernement pour faire plaisir aux ultra-orthodoxes tout de même. Donc il y va.
Qu'est-ce que cette loi révèle de l'évolution de la société israélienne ?
Ça révèle à la fois la crainte de la grande majorité de la population de voir un jour les ultra-orthodoxes prendre une dimension très importante. Vous savez que démographiquement, aujourd'hui, ils sont environ 10% de la population juive israélienne. Si leur taux de fécondité ne baisse pas, et dans 20 ans, ils sont 20%. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça révèle que les orthodoxes craignent énormément d'être engloutis dans un État dont ils ne reconnaissent pas, encore une fois, les fondements philosophiques et institutionnels. Pourquoi je dis engloutis ? Parce que l'armée en Israël a réussi en termes d'intégration des prodiges. Elle a intégré des rescapés d'Auschwitz, des populations très difficiles, je pense aux Yéménites, je pense aux Marocains, aux Irakiens dans les années 50 et 60. Elle a intégré les Russes, alia très difficile dans les années 90 et 2000, et elle est en train depuis quelques années de commencer à intégrer le monde ultra-orthodoxe. Par conséquent, les chefs du mouvement ultra-orthodoxe, un certain nombre d'entre eux en tout cas, craignent en réalité que leurs jeunes apprécient finalement l'armée, découvrent le pays avec leurs yeux, avec leurs pieds, crapahutent dans les montagnes et les déserts, et finalement se sionisent. Cette crainte des ultra-orthodoxes vis-à-vis du reste du pays, je pense qu'elle est trop négligée et qu'elle constitue aujourd'hui l'une des variables de la décision de montrer sa colère de la part des orthodoxes.
Quelle suite peut-on attendre de leur part après l'adoption de la loi sur le service militaire ?
Ils vont continuer à manifester, mais ils n'ont pas beaucoup de possibilités d'agir très concrètement à partir du moment où toutes les modalités à la fois administratives, légales, juridiques sont passées. La Cour suprême, en général, d'ailleurs, leur est défavorable, puisque la Cour suprême, c'est vraiment le rempart de la laïcité en Israël. Donc il est inimaginable que la Cour suprême revienne un jour sur cette loi. Après, lorsque s'appliquera la loi, ils multiplieront les demandes d'exemption. Les gamins de 18 ans qui sont déjà papas, ce qui n'est pas si rare que ça, chez l'ultra-orthodoxe, 18, 19, 20 ans, bon, ils auront une exemption. Ensuite, les femmes ultra-orthodoxes ne feront pas l'armée. Elles sont exemptées, ça c'est sûr. Les gens qui pourront démontrer que le métier, que la profession est d'étudier le Talmud, seront exemptés. Les vrais professionnels, les rabbins, ils seront exemptés. Alors, si vous voulez, les soutiens de famille seront exemptés. Il y en a pas mal quand même. Ça fait du monde, hein. J'ai presque envie de dire que aujourd'hui leur combat, ou demain leur combat aux ultras, ce sera de surmultiplier, vous voyez, de gagner le plus possible homme après homme, de gagner le plus possible d'exemptions par rapport à cette armée, à cet enrôlement.
Dans quelle mesure cette loi a-t-elle encore de la substance ?
Elle a quand même de la substance parce que malgré tout, un certain nombre de jeunes orthodoxes seront obligés de faire l'armée. Et pour la majorité de la population non orthodoxe du pays, et notamment pour les franges les plus laïques du pays, c'était très important que, au moins sur le plan symbolique, les orthodoxes donnent du temps ou de l'énergie, sacrifient quelque chose. Donc c'est vraiment une loi un peu plus que symbolique sur la cohésion nationale israélienne. C'est important parce que si cette loi ne passait pas, il y avait des menaces de la part de très nombreux parents et de nombreux citoyens laïcs du pays de ne plus envoyer leurs propres enfants faire l'armée. Là, en revanche, on risquait de commencer à détricoter la pelote et là, ça pouvait devenir excessivement grave. Donc c'est aussi pour ça que cette loi est passée.